Proche-Orient, 3 jours à peine depuis les attaques du Hamas, un peu plus de 72 heures. Donc, on va essayer avec vous d'établir les premières conséquences que l'on peut tirer de ce qui se passe là-bas.
Oui, avec un préambule évident, 72 heures ou un peu plus à peine après le déferlement de violence du Hamas, il est encore extrêmement tôt pour établir de très fermes certitudes. Une évidence, tout de même, le conflit s'est rappelé aux yeux de tous. C'était évidemment la volonté de ceux qui ont porté la violence jusqu'en Israël. C'est le douloureux constat de ceux qui l'ont subi de plein fouet. Israéliens, civils qui, en bien trop grand nombre, l'ont payé de leur vie. C'est un rappel, enfin, aux yeux de toute la communauté internationale qui, jusqu'ici, s'en trouvait très confortable de regarder ailleurs. L'opposition entre Israël et Gaza était en quelque sorte devenue un combat de basse intensité. On parlait bien plus souvent de points de friction, de tension que de réels combats. Depuis samedi, ce conflit est devenu, redevenu dans les mots même des dirigeants israéliens, une guerre. Et ça, dans cette région, dans ce contexte, c'est un second enseignement important.
Important pourquoi, Nicolas? Israël vivait déjà jusqu'ici dans un contexte très sécuritaire. Le pays était déjà en quelque sorte en guerre, non?
Oui, oui et non. Ce qui est particulièrement complexe ici, c'est qu'il faut manipuler les termes, les mots, le vocabulaire avec une prudence extrême. Israël est en guerre, oui, mais pas contre une armée, pas en guerre contre des soldats. Le Hamas n'est d'ailleurs pas l'armée régulière d'un État. Israël d'ailleurs ne reconnaît pas l'existence d'un État palestinien. Alors quelle est cette guerre? Une guerre contre le terrorisme pratiqué par le Hamas. Voilà la réponse que l'on pourrait formuler.
D'accord, guerre donc contre le Hamas, cela étant établi, qu'est-ce que ça nous apprend de plus?
Eh bien, une fois que l'ennemi est clairement désigné, les parties au conflit devraient s'en tenir à ne frapper que l'ennemi. On oublie parfois cette dimension, mais le droit international codifie la manière dont doivent se dérouler les conflits armés. Ici, fixons-le d'emblée, les hommes en armes du Hamas, en se livrant à des attaques d'une barbarie sans nom, ont fait comprendre à tous qu'ils ne respectaient aucune de ces règles très précises du droit de la guerre. Les exécutions de civils, les enlèvements, les massacres rue par rue, maison par maison de citoyens israéliens entreront à coup sûr dans la catégorie des crimes de guerre. Ce déferlement de haine devra un jour être poursuivi et jugé, mais par sa réponse, Israël se positionne aussi dans un schéma de spirale du pire, lit-on ici, inéluctable riposte, a-t-on écrit ailleurs, escalade ou engrenage, peu importe. Passé les toutes premières heures de stupéfaction, le ministre israélien de la Défense a promis une réponse dont Gaza aurait à se souvenir durant 50 ans. Alors une journaliste israélienne, irano-israélienne, en réaction à cela, appelait son pays à se garder de tout désir de vengeance, parce que la vengeance, c'est tout l'inverse de la justice, dit-elle. La vengeance n'ajoutera que de la violence à la violence. En somme, face à l'existence, à l'exigence, pardon, très légitime de sécurité que les Israéliens sont en droit de réclamer de leur gouvernement, la vengeance, en quelque sorte, joue à l'opposé.
Mais c'est un message quasiment impossible à entendre, non, Nicolas, avec les crimes auxquels on a assisté. On a vu les images, hein, presque en direct. L'État israélien ne peut qu'avoir qu'une réaction extrêmement ferme.
Oui, et vu le contexte, plaider pour que chacun dépose les armes, ça tient de la naïveté ou d'une méconnaissance coupable de ce qui se passe là-bas.
D'autant qu'il y a des otages aussi.
Et oui, et cet élément-là, bien sûr, c'est un défi de plus à résoudre pour le gouvernement israélien. Comment récupérer ces otages? On parle d'une centaine, hein, au moins d'otages, des civils, parfois des militaires israéliens aussi, capturés, emmenés pour certains dans la bande de Gaza. Un élément encore, et je crois qu'il faut le souligner, des observateurs ont tenu à comparer ce qui se passe en ce moment, 11 septembre, Bataclan, guerre du Kippour. Il faut se montrer prudent avec ce genre de parallèle parce que ça amène vite à tirer des conséquences qui étaient valables à l'époque mais qui ne le sont plus ici. Oui, Israël a été totalement surpris, comme au déclenchement de la guerre du Kippour, avec un fiasco militaire, mais non, sa survie en tant qu'État n'est pas ici en jeu. Bien sûr, l'attaque sur la Rave Party rappelle les fusillades du Bataclan, les rafales sur les terrasses à Paris, mais les attaques du Hamas ces 3 derniers jours relèvent aussi de gestes géopolitiques bien plus complexes. Il y a dans le chef du Hamas un message qui est envoyé aux autres États de la région. Nous sommes en mesure de déstabiliser tout notre environnement. Et oui, évidemment, dans son ampleur, dans sa soudaineté, les actes terroristes de ces derniers jours rappellent le 11 septembre. Mais 20 ans, plus de 20 ans se sont écoulés depuis. Le contexte est de loin n'est plus celui d'une histoire arrêtée au lendemain de la guerre froide. Alors, que retenir de tout ça? Les mots peut-être d'Eli Barnavi dans Le Monde. Pour l'ancien ambassadeur d'Israël en France, le massacre auquel nous avons assisté résulte de la conjonction entre une organisation islamiste fanatique et une politique israélienne imbécile. Les deux ont joué du rapport de force pour repousser au plus loin l'hypothétique règlement pacifique du différend. Tant qu'aucune de ces deux forces ne modifiera sa ligne de conduite, pas d'issue favorable. pas de sécurité pour les uns, pas de reconnaissance non plus pour les autres.
1400 frappes exécutées ces dernières heures sur la bande de Gaza par l'armée israélienne. C'est l'armée israélienne, bien sûr, qui communique sur ce chiffre. On a vu les images de ces explosions durant la nuit dans la bande de Gaza. Merci beaucoup pour cet œil international, Nicolas Van Neuskrik. On parlera de la situation.